VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, Jean-Roger Bion à ce micro, au sommaire de cette édition du lundi 5 décembre 2022. Bonjour à tous. Coupe du monde de football, la Croatie passe en quart de finale en sortant le Japon au tir au but. Au Tchad, prison ferme pour 262 personnes ayant pris part aux manifestations du 20 octobre.
Pour une enquête digne de ce nom, une enquête internationale et indépendante.
Maître Djirandi Laguerre-Diongro, bâtonnier de l'ordre des avocats du Tchad. Au Soudan, les militaires et les civils signent un accord de sortie de crise. En RDC, la compagnie minière Glencore a accepté de payer 180 millions à l'État après des accusations de corruption. Le plafonnement du prix du G7 entre en vigueur. Le Kremlin minimise l'impact. Bonsoir, bienvenue. On commence par le spécial Coupe du Monde. C'est avec Eric Manirakiza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Jean-Roger.
La Croatie, vice-championne du monde en titre, a dû passer par une séance de tir au but pour venir à bout du Japon et se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe du Monde.
Il s'agit d'une issue inédite depuis le début de la Coupe du Monde au Qatar, Jean-Roger. Les deux équipes étaient à égalité, un but partout, à l'issue du temps réglementaire et de la prolongation. Les Japonais, sur la lancée de leur succès inattendu contre l'Allemagne, puis l'Espagne en phase de poule, avaient ouvert le score en fin de première mi-temps par Daisen Maeda. Mais Ivan Perisic a ramené les siens à hauteur à 55e minute avant que la qualification se joue au tir au but. Le portier croate Dominik Livaković a sorti 3 tentatives japonaises. Les 4 premiers huitièmes de finale de la compétition se sont décidés avant la fin du temps réglementaire. Les Croates affronteront vendredi pour une place en demi-finale. Le vainqueur du match entre le Brésil et la Corée du Sud, programmé ce soir à 19h en temps universel. Neymar, rétabli de son entorse à la cheville droite, est titulaire avec le Brésil pour ce huitième de finale au stade 974 de Doha. Touché au premier match contre la Serbie, la star brésilienne a manqué les deux matchs suivants face à la Suisse et au Cameroun.
Le Sénégal, champion d'Afrique en titre, a quitté hier le mondial sur une défaite 3-0 face à l'Angleterre.
Les Lions de la Teranga n'ont pas pu réitérer leur exploit de 2002 lorsque le Sénégal avait atteint les quarts de finale du mondial en Corée du Sud et au Japon. Suivez quelques réactions des supporters à la fin de la rencontre.
Angleterre gagne Sénégal, huitième de finale.
Le Sénégal qui perd devant l'Angleterre en huitième de finale de Coupe du Monde, ce n'est pas une surprise. Surtout qu'on a joué sans Sadio Mané. C'est logique, mais nous sommes des Sénégalais et nous avons abordé ce match avec euphorie pour galvaniser l'équipe.
Je m'attendais à un Sénégal un peu beaucoup plus cohérent, beaucoup plus conquérant, beaucoup plus battant. Aussi juste après l'égalisation, malheureusement, comme je l'ai dit, l'Angleterre a été plus forte que nous, la logique a été respectée. Nous ne pouvons être que fiers de nos Lions.
On peut même dire que c'est un résultat qu'on doit saluer. Parce que nous, les Sénégalais, on n'attendait même pas le Sénégal en huitième de finale, sans Sadio Mané. Ils ont fait le tout, ils ont sacrifié, ils ont donné fort exemple pour qu'ils puissent venir ici en huitième de finale. Donc ils ont fait un grand tournoi.
Franchement, pour nous, on a très 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 bien joué. On a eu un bon parcours. On est arrivé, je crois, en huitième de finale. Et ici, on a représenté toute l'Afrique. Malheureusement, on est tombé quand même sur une bonne équipe d'Angleterre qui a une très très bonne attaque. Donc voilà, hein. Après, le résultat, vous le connaissez. Donc on sera là sur la prochaine Coupe du Monde, si Dieu le veut.
Au lendemain de cette défaite inespérée du Sénégal, tous les regards africains sont maintenant tournés vers le Maroc face à l'Espagne.
Tout à fait, Jean-Roger. La dernière nation africaine dans le Mondial 2022 rêve d'exploit. Le jeu de passe de l'Espagne contre l'organisation quasi infaillible du Maroc. Le derby du détroit de Gibraltar promet une belle opposition de style demain mardi en huitième de finale. Nous avons la possibilité d'écrire l'histoire, lance Walid Regragui. qui vise un premier quart de finale de Coupe du Monde pour son pays. Nous sommes une équipe difficile à jouer, annonce le sélectionneur des Lions de l'Atlas. Le Maroc, nouvelle génération, s'est hissé vers les huitièmes de finale pour la première fois depuis 1986. Il a fait en sortant premier dans le groupe F, relevé avec la Croatie, la Belgique et le Canada, et en encaissant un seul but, soit la meilleure défense du tournoi à égalité avec la Croatie et le Brésil.
L'attaquant suisse né au Cameroun, Brill Embolo, a estimé aujourd'hui que le français Kylian Mbappé était actuellement le meilleur joueur du monde.
En ce moment, oui, il est incroyable. C'est un exemple pour moi aussi. C'est très grand ce qu'il fait. Félicitations à lui, a d'abord répondu l'attaquant suisse à un journaliste qui lui demandait si Mbappé était à son sens le meilleur joueur du monde. Il lui a souhaité 9 buts de plus en Coupe du Monde. Dimanche, face à la Pologne, Kylian Mbappé a inscrit un doublé et donné une passe décisive à Olivier Giroud lors de la qualification des Bleus pour les quarts de finale du Mondial de 2022. Il avait inscrit 4 buts lors du Mondial de 2018 et en est à 5 au Qatar. Et Mbappé a du sang camerounais. Son père, il est camerounais.
Page de sport signée Eric Manirakiza. La suite de ce journal, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a saisi la Cour constitutionnelle pour faire annuler un rapport parlementaire qui l'accable sur un scandale au parfum de corruption dont les conclusions ont ouvert la voie à une procédure de destitution à son égard. Dans un document remis à la juridiction suprême, le chef de l'État sud-africain réclame que le rapport remis mercredi au Parlement soit revu, déclaré illégal et ne soit pas pris en compte. Lors d'une réunion aujourd'hui, le parti de M. Ramaphosa, l'ANC, qui détient une confortable majorité parlementaire, a fait savoir que ses députés voteront contre toute procédure de destitution. Au Tchad, un total de 262 personnes arrêtées à N'Djamena lors d'une manifestation violemment réprimée mais en octobre, ont été condamnés de 2 à 3 ans de prison ferme dans un procès de masse à huis clos et sans avocat. C'est ce qu'a annoncé le parquet ce lundi. Le point avec Nani Talani.
Sur les 401 personnes jugées, 80 autres ont écopé de peines d'emprisonnement avec sursis, 59 ont été relaxés et quelques 80 mineurs détenus à Korotoro ont été transférés à N'Djamena, précise le procureur de la République, Moussa Ouad Djibrine. Ce procès de masse s'est déroulé en plein désert, à 600 km de la capitale, dans une prison de haute sécurité à Korotoro. Une procédure qualifiée de dépaysement illégal, selon les avocats des accusés, qui ont décidé de ne pas s'y rendre. Ces manifestants contre le régime de N'Djamena comparaissaient notamment pour violence et voies de fait, destruction de biens et troubles à l'ordre public. Le procès s'est tenu en 4 jours entre mardi et vendredi. Seule la télévision d'État a eu le droit d'y assister. Le procureur n'a rendu public le jugement que 3 jours plus tard, soit ce lundi, à son retour dans la capitale. Ces manifestants répondaient à l'appel de l'opposition contre la prolongation de 2 ans au pouvoir du général Mahamat Idriss Déby Itno le 20 octobre 2022. Une cinquantaine de personnes avaient été tuées sous les balles des forces de l'ordre.
En Guinée, la comparution de Moussa Dadis Camara au procès du massacre de septembre 2009 a tourné court ce lundi quand la Cour a accepté la demande de renvoi de l'ancien dirigeant pour raison de santé. « Je ne suis pas au-dessus de la loi », a-t-il dit, « mais en toute sincérité, je ne me sens pour le moment absolument pas en état de déposer ». Le capitaine Dadis Camara répond depuis le 28 septembre 2022 à une dizaine d'anciens responsables militaires gouvernementaux du massacre perpétré 13 ans plus tôt, jour pour jour. Au Sénégal, 2 députés de l'opposition étaient recherchés aujourd'hui par la police après des violences sur une parlementaire lors d'une bagarre jeudi à l'Assemblée nationale. Le premier, Massata Samb, a giflé la parlementaire Ami Ndiaye et le second, Mamadou Niang, lui a donné un coup de pied au ventre le 1er décembre au cours du vote du budget du ministère de la Justice. Au Mali, le gouvernement a annoncé aujourd'hui le retour au poste de premier ministre de Choguel Koukala Maïga, éloigné depuis août à la suite d'un accident vasculaire cérébral à l'âge de 64 ans. Le chef de l'État de la transition, le colonel Assimi Goïta, a levé un préalable à ce retour dimanche en abrogeant le décret qui avait nommé en août le colonel Abdoulaye Maïga premier ministre par intérim. Au Soudan, un accord visant à mettre fin à la profonde crise politique a été signé ce lundi entre dirigeants militaires et civils. L'annonce a été saluée par Washington et ses alliés. Abdourahman Dia.
L'accord cadre a été signé par le général Burhan, le commandant paramilitaire Mohamed Hamdan Daglo, ainsi que plusieurs groupes civils, notamment les Forces pour la Liberté et le Changement FCC, qui ont été évincés lors du coup d'État. Dans un premier temps, l'accord cadre jette les bases de l'établissement d'une autorité civile de transition, ont indiqué les FFC, notant que d'autres groupes civils l'avaient également signé. La deuxième phase comprend un accord final traitant des questions telles que la justice transitionnelle et les réformes de l'armée, phase qui devrait être achevée d'ici quelques semaines selon un communiqué des FCC. Cette initiative a été aussitôt dénoncée par des centaines de Soudanais qui se sont rassemblés à Khartoum. L'accord est une trahison et les FFC ont vendu notre sang, criaient les manifestants. Le document a été négocié en présence de responsables des Nations Unies, de diplomates occidentaux ainsi que d'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis, selon les FFC. L'accord intervient après de multiples tentatives pour sortir de l'impasse depuis que le chef de l'armée, Abdel Fattah al-Burhan, a pris le pouvoir et évincé les dirigeants civils.
La multinationale minière Glencore, basée en Suisse, va payer 180 millions de dollars à la RDC dans le cadre d'un accord couvrant des actes présumés de corruption entre 2007 et 2018. Le groupe indique que ses filiales ont fait l'objet d'enquêtes du département de la justice américain et de la cellule des renseignements financiers congolaise. Nathalie Barge.
La multinationale minière spécialisée dans le courtage de matières premières a été assignée en 2018 par le département de la justice américain dans le cadre d'une vaste enquête pour corruption liée à ses activités en République démocratique du Congo, au Nigeria et au Venezuela. Des poursuites ont ensuite été lancées par d'autres autorités. En mai dernier, le groupe a conclu des accords coordonnés avec les États-Unis, le Royaume-Uni et le Brésil pour des faits de corruption en Afrique et en Amérique du Sud. Glencore avait accepté de payer 700 millions de dollars aux États-Unis pour fraude et corruption au Venezuela, au Brésil, au Nigeria et au Cameroun, et pour détournement d'informations confidentielles au Mexique. En novembre, Glencore a également été condamné par la justice britannique à payer 280 millions de livres concernant des pots de vin pour un accès préférentiel au pétrole en Côte d'Ivoire, en Guinée équatoriale, au Soudan du Sud, au Nigeria et au Cameroun. En 2021, le chiffre d'affaires du groupe s'élevait à plus de 203 milliards de dollars américains, le plus élevé de toutes les sociétés minières du monde.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Russie a assuré ce lundi que le plafonnement du prix de son pétrole ne freinerait pas son offensive contre l'Ukraine. Ces frappes continuent de priver de nombreuses personnes d'électricité et de chauffage en plein hiver. Yakuba Oudraogo.
Le baril du pétrole russe doit désormais coûter 60 dollars au lieu du prix actuel qui est d'environ 65 dollars. Cette limitation du prix de vente du pétrole russe, une nouvelle sanction des pays occidentaux, entre en vigueur ce lundi. Elle a pour objectif d'assécher une partie des revenus que Moscou tire de l'exportation de ses hydrocarbures et diminuer sa capacité à financer son effort militaire. Kiev juge cette limite insuffisante. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, soutient que l'économie russe a toutes les capacités nécessaires pour financer son offensive. Ce plafonnement coïncide avec l'entrée en vigueur ce lundi d'un embargo de l'Union européenne sur l'importation du pétrole russe acheminé par voie maritime. Le Kremlin avait déjà affirmé qu'il ne livrerait plus de pétrole aux pays qui adopteraient ce plafonnement. Sur le terrain, les Ukrainiens continuent de souffrir des coupures d'électricité en plein hiver, conséquence de récents bombardements russes ayant visé les infrastructures énergétiques. Cette nuit, trois missiles ont touché un site industriel à Kryvyi Rih, dans le sud de l'Ukraine, a déclaré la présidence ukrainienne, précisant qu'une personne a été tuée et 3 hospitalisés.
Ici aux États-Unis, les jurés du procès pour fraude fiscale de la Trump Organization ont commencé à délibérer ce lundi après 4 semaines de témoignages et d'arguments sur les pratiques de rémunération des cadres de la société immobilière de Donald Trump qui, selon le procureur, s'apparente à un système criminel s'étendant sur plusieurs années. Dans un instant, la partie magazine de cette session d'information.
Le Monde, aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Tchad, le parquet a annoncé aujourd'hui des peines de prison ferme pour 262 personnes arrêtées le 20 octobre dernier à N'Djamena lors d'une manifestation violemment réprimée. Un procès de masse à huis clos et sans avocat que dénonce Maître Djirandi Laguerre-Dioro, bâtonnier de l'ordre des avocats du Tchad. Il a été joué au téléphone à Niamey, au Niger, par Zuma Compaoré.
Pour ce qui nous concerne en tant que barreaux, nous restons dans notre logique de dénonciation de ce que nous qualifions de parodie de justice. Et nous avions, comme vous l'avez constaté, nous avons décidé d'un arrêt d'activité jusqu'à la fin de cette fameuse audience dite foraine, qui n'en est pas une, comme je le disais, parce que nous dénonçons les violations des règles de procédure, non seulement les règles de procédure contenues dans le Code de procédure pénale, mais également les textes qui régissent les circonscriptions territoriales des juridictions. Et comme je le disais, la prison de Korotoro ne relève pas de la compétence du tribunal des grandes instances de Djamena. Pour nous, toutes les règles de procédure ont été violées, non seulement en enquête préliminaire, mais également cette audience qui a eu lieu sans le respect du droit de la défense, donc un procès qui s'est tenu en toute violation d'un procès équitable, parce que les règles de procédure ont été violées, et ça pose véritablement la question de l'indépendance du pouvoir judiciaire au Tchad et donc de l'état de droit. Et justement, nous nous sommes surpris que les magistrats eux-mêmes, qui doivent être jaloux de leur indépendance, qui doivent eux-mêmes s'affermir et s'affranchir de la tutelle de l'exécutif, eh bien, se comportent de la sorte en toute violation des règles de procédure.
Alors justement, Maître, vous parlez de défaut de procédure. Au-delà de la cessation des activités, de quoi est-ce que vous disposez concrètement pour pouvoir faire entendre votre cause?
Nous nous sommes engagés en tant que barreaux à défendre ces personnes-là. Donc, les violations des règles de procédure, les violations de tout ce qui est texte en la matière, eh bien, c'est autant d'éléments de droit que nous disposons pour contester cette décision devant la Cour d'appel, en espérant que la Cour d'appel entendra raison et fera tomber cette décision. Nous sommes dans cette logique-là, comme nous l'avions dit lors de nos différentes sorties, communiqués de presse et points de presse, réclamer une commission d'enquête indépendante, internationale indépendante. Une commission d'enquête indépendante doit être placée pour nous sous les auspices d'une institution internationale sérieuse. J'insiste, sérieuse et indépendante, une institution qui peut faire un travail en toute indépendance. Dans tous les cas, nous, en tant que défenseurs des droits de l'homme, nous accompagnons toutes ces victimes dans les procédures qu'elles envisageront et nous sommes déterminés à faire de sorte à ce que la lumière soit faite sur cette affaire. C'est pourquoi il faut une enquête digne de ce nom, une enquête internationale et indépendante.
Maître Djirandi Laguerre-Dioro, bâtonnier de l'ordre des avocats du Tchad.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 4 au Tchad.
La CEDEAO décide de mettre en place une force régionale vouée à intervenir non seulement contre le djihadisme, mais aussi en cas de coup d'État. Annonce faite à l'issue d'un sommet des chefs d'État à Abuja ce week-end. Cette force régionale interviendra en cas de besoin, qu'il s'agisse de sécurité, de terrorisme ou de rétablir l'ordre constitutionnel dans des États membres, selon Omar Touré, le président de la commission de la CEDEAO. Pour en parler, Abdourahman Dia, adjoint à Bissau, Bakary Sambé, directeur de Timbuktu Institute à Bissau.
D'abord, l'intention est bonne de faire de sorte que les pays ouest-africains gèrent leur sécurité eux-mêmes et sortent de cette délégation de souveraineté et de sécurité qui exigeait que l'on fasse appel à des forces étrangères, notamment des pays ou comme on l'a vu récemment, à d'autres structures. Partant de cela, c'est une prise de conscience qui était nécessaire que la sécurité soit prise en charge par les pays qui sont concernés et par les organisations régionales ou sous-régionales, telles que la CEDEAO. Et d'ailleurs, la CEDEAO dit bien que, qu'elle décidait de recalibrer son architecture sécuritaire. Mais il y a toujours ce décalage très souvent noté entre les bonnes intentions, les grands projets et les moyens à mettre à disposition.
Alors, est-ce qu'il n'est pas quand même plus réaliste de séparer les deux aspects, d'un côté la lutte contre le terrorisme et de l'autre le retour à l'ordre constitutionnel?
La CEDEAO part d'une conclusion sur laquelle il y a une relation intrinsèque entre la prise du pouvoir par les militaires et le constat de l'échec de la lutte contre le terrorisme et la gestion de la sécurité. Et donc, c'est certainement c'est ça qui a conduit à lier les deux, mais cela va quand même produire une forme de mélange des genres. Certes, nous avons vu par le passé qu'il y a eu des forces comme ECOMOG et d'autres qui ont pu gérer des situations pour ramener à l'ordre constitutionnel. Maintenant, je pense que c'est une nouvelle stratégie qui vise à combiner la gestion des urgences sécuritaires, mais aussi la gestion de tous ces problèmes qui peuvent conduire à l'instabilité elle-même productrice d'insécurité.
Et effectivement, selon vous, quelle va être l'attitude des pays dirigés par des militaires en ce moment dans la région? Je pense notamment au Mali et au Burkina Faso surtout, mais également en Guinée.
Cela va être très difficile, d'autant plus que ces différents régimes militaires actuellement au pouvoir issus de coups d'État brandissent toujours le principe de la souveraineté. Mais je pense que là, c'est une prise en main de deux questions importantes, celle de la gestion des instabilités politiques et de l'insécurité. Mais à mon avis, l'écart est encore là entre les bonnes intentions d'une part, les stratégies communautaires et les moyens de mise en œuvre, les moyens aussi bien financiers mais aussi politiques qui requièrent une forme de légitimité que l'organisation sous-régionale doit quand même reconquérir.
C'était Bakary Samb, je dis bien Bakary Samb, directeur de Timbuktu Institute.
Abdourahman Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, la force régionale de la CEDEAO pour combattre le djihadisme et pour le rétablissement de l'ordre constitutionnel. À l'issue d'un sommet à Abuja, les chefs d'État ouest-africains ont annoncé que les chefs militaires des pays membres se réuniront le mois prochain afin de discuter des modalités de la mise en place de cette force dans une région minée par le terrorisme et les coups d'État. Cette force régionale est-elle la réponse à l'insécurité et l'instabilité institutionnelle en Afrique de l'Ouest? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voafrique.com et en rediffusion samedi et dimanche.
Au Gabon, les élections générales de 2023 sont déjà au cœur de l'agitation politique dans le pays. Le débat, la caducité du centre gabonais des élections dont le mandat est arrivé à terme depuis plus de 2 ans. Sur avis de la Cour constitutionnelle saisie par l'opposition, le CGE devait être renouvelé le mois dernier à 9 mois de la convocation du collège électoral gabonais. C'est le dialogue de sourds entre pouvoir et opposition à Libreville. Sur place, les explications de notre correspondant Ismaël Obiangenze.
Selon la plateforme citoyenne Gabon d'abord, le mandat du centre gabonais des élections a été prorogé 2 fois en violation de la loi. Une première fois plus de 2 mois après expiration du délai légal. Jacques Adjaeno, porte-parole de la plateforme Gabon d'abord.
Cet état de fait constitue pour la plateforme citoyenne et patriotique Gabon d'abord un cas de double violation grave des textes légaux.
Pour le Parti démocratique gabonais au pouvoir, il n'y a pas besoin de polémique. Le renouvellement du centre gabonais des élections est une question de temps. Michel Donresso, membre de l'Union des jeunes du PDG.
Il n'y a pas de polémique. Il n'y en a que dans l'esprit de ceux qui veulent semer les troubles avant les élections. Nous sortons d'un contexte sanitaire compliqué qui a bloqué le fonctionnement des institutions dans toutes les dimensions. Le gouvernement, par la voix des institutions qui en ont la capacité juridique, va effectivement annoncer un calendrier, va dérouler un calendrier. Soyez rassurés.
Faute de consensus autour des règles de transparence, les analystes politiques redoutent des périodes pré- et post-électorales mouvementées. Arcel Moreau est politologue.
Dans le contexte actuel où, suite aux difficultés de santé rencontrées par le président de la République, suite aux difficultés que ressent le gouvernement par rapport à la situation post-Covid-19 qui a beaucoup affaibli l'économie, il sera difficile dans ce contexte-là d'accepter un verdict qui n'aurait pas été construit de façon saine, visible et incontestable.
Dans sa mission de prévention des conflits, le Bureau des Nations Unies pour l'Afrique centrale se dit prêt à accompagner le Gabon. Abdou Abari, chef de mission de l'UNOCA à Libreville.
Nous allons intensifier les formations, y compris des formations d'encadrement au niveau de la famille, de partenaires comme vous, les journalistes gabonais, de façon à ce que vous soyez un médium pour transmettre un certain nombre de messages que nous allons arrêter d'accord parti, de façon à ce que le climat de paix, la cohésion sociale, la paix et la stabilité au Gabon soient préservés, même au cours d'un contexte électoral.
Élu en 2018 pour un mandat de 2 ans, renouvelable une fois, le centre des élections au centre de la dispute est toujours en poste, alors que selon les sources officielles, le gouvernement prépare le lancement de l'opération de révision des listes électorales. Libreville, Ismaël Obianzé pour VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Les puissances occidentales qualifient de barbarie la guerre en cours de la Russie dans l'Ukraine voisine. Avec le froid de l'hiver qui s'installe, le Kremlin semble multiplier les attaques contre les infrastructures ukrainiennes critiques. Les puissances occidentales ont cherché à riposter aux exportations de pétrole russe, mais Moscou a rejeté ses efforts. Arash Arabasadi de VOA en dit plus, le récit avec Nani Talani.
Les incidents font rage à Kherson après une nuit de bombardements intensifs. Les attaques contre cette ville du sud de l'Ukraine, autrefois occupée par les forces russes, se sont intensifiées depuis que l'armée ukrainienne l'a récupérée il y a quelques semaines. Les ambulanciers ici soignent un homme qui dit que la moitié de sa maison a disparu. Les habitants de Kherson se débattent sans électricité, chauffage ou eau courante, alors que les températures oscillent en dessous de zéro. Ils rechargent leur téléphone et accèdent à Internet depuis des tentes escamotables. Les forces russes en retraite ont endommagé une grande partie de l'infrastructure critique ici, mais les Ukrainiens disent qu'ils ont rétabli une partie de l'alimentation du réseau électrique. Les puissances occidentales, quant à elles, ont dénoncé les tactiques du président russe Vladimir Poutine en Ukraine.
Ce qu'il fait, c'est essayer de transformer l'hiver en armes, éteindre les lumières, éteindre le feu, plonger le peuple ukrainien dans l'obscurité et le froid alors qu'il se dirige vers les mois d'hiver. C'est en effet barbare.
Lors d'un récent voyage en Indonésie pour un sommet des dirigeants des 20 plus grandes économies du monde, le président américain Joe Biden et le premier ministre britannique Rishi Sunak se sont unis pour qualifier de barbare la guerre de la Russie contre l'Ukraine et ont appelé à sa fin. Lors de cette même réunion, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a reproché à l'Ukraine d'exiger des conditions irréalistes pour mettre fin à la guerre. À la fin de la semaine dernière, les principales économies du groupe des 7 et l'Australie se sont unies pour exercer de nouvelles pressions sur le Kremlin pour qu'il se retire d'Ukraine en plafonnant le prix du pétrole russe à $60 le baril. Le vice-premier ministre russe, Alexander Novak, cité par l'agence de presse Reuters, a déclaré que Moscou ne vendrait pas de pétrole soumis à un plafond de prix occidental, même s'il devait réduire sa production. Pendant ce temps, les ambassades et consulats ukrainiens dans 6 pays européens ont signalé la semaine dernière avoir reçu des colis sanglants contenant des yeux d'animaux. Et la police espagnole a fait exploser une enveloppe suspecte trouvée à l'ambassade des États-Unis à Madrid, une tentative d'attaque condamnée par la Russie. Les autorités affirment que cette bombe était l'une des nombreuses récemment envoyée dans la capitale, dont une interceptée en route vers le bureau du premier ministre espagnol Pedro Sánchez. Tout au long des près de 10 mois de guerre, des observateurs à l'intérieur et à l'extérieur de l'Ukraine ont appelé à des enquêtes sur les crimes de guerre de Moscou. Dans la ville de Kharkiv, cible fréquente des bombardements russes, les autorités ont construit un cimetière pour les missiles et les munitions en vue d'un examen futur. La Russie a nié avoir pris pour cible des civils en Ukraine.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde. Georges Léonard Sagnot, un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.